Bonjour et bienvenue, les rendez-vous du droit. Au menu de ce jour, l'interprétation de la norme. L'interprétation de la norme, et oui, les juristes passent leur vie à interpréter des normes. C'est leur métier. Les médecins soignent, les juristes interprètent. Et pour parler de ce sujet dont vous avez déjà sans doute pu mesurer la complexité, j'ai à ma droite et à ma gauche deux interprètes, deux apprentis interprètes, mais enfin des apprentis déjà bien confirmés. Alors, Liane, qu'interprétez-vous ?
Alors, moi, je suis doctorante et je travaille en droit des nouvelles technologies, et plus précisément sur les questions des algorithmes.
Oui, donc vous faites des maths.
Pas exactement, puisque finalement, même si l'algorithme, c'est une notion mathématique, ce sont des objets, des outils qui ont des influences sur nos vies quotidiennes. Et la question, c'est comment est-ce que le droit va se saisir de ces outils ? Et vous, j'imagine que vous savez un petit peu comment ces outils interagissent avec nous, parce que vous êtes ici, à l'université, grâce notamment à un algorithme qui s'appelle APB.
Oui, alors, vous n'êtes pas là que grâce à un algorithme. L'algorithme, d'abord, a traité des données qui révélaient votre talent. Et vos talents ont aussi fait l'objet d'une appréciation humaine post-algorithme.
C'est ce qui est toute la question, finalement. C'est comment est-ce que l'algorithme et l'humain vont collaborer pour prendre une décision. Et c'est sur ça sur lequel je travaille.
Et vous, nom, prénom, interprétation ?
Alors, je suis Quentin Mollier et je suis doctorant en droit international privé. Alors, cette matière, qui ne veut pas dire grand-chose a priori, c'est la matière qui traite des relations privées internationales. Par exemple, imaginons que vous, jeune étudiant ou étudiante français, française, en Italie, en vacances, soyez renversé par un citoyen chinois. Deux questions se poseront. D'une part, devant quel juge pouvez-vous aller ? Notamment, est-ce que vous pouvez aller devant le juge français, vous qui habitez en France ? Et surtout, car c'est la question qui m'intéresse le plus, quelle loi va être applicable à la situation ? Car il n'y a a priori aucune raison nécessaire pour que la loi française soit plus à même de trancher la situation que la loi chinoise ou que la loi italienne.
Mais vous voyez qu'à travers un exemple qui est relativement simple, à l'accident de voiture en Italie causé par un Chinois ou un Thaïlandais ou un Américain, peu importe, se posent des questions dont on devine qu'elles méritent un peu de savoir et un peu de science pour être traitées correctement. Voilà, des questions qui sont des questions d'interprétation de la norme, mais passons tout de suite au premier temps de notre émission, les questions que vous vous posez. Vous savez que les révolutionnaires détestaient les juristes et leur surnom était les suppôts de la chicane. Et l'idéal révolutionnaire était qu'on peut se passer de ces gens qui passent leur vie à interpréter des normes pour vivre en société. Rien de mieux que quelques bons principes sur lesquels tout le monde s'accorde. Nul n'est besoin de ces juristes qui dissertent à perte de vue sur de vieux textes, sur de vieilles décisions de justice, sur de vieux recueils. Ces gens-là sont des parasites. Voilà, enfin, le propos,
C'est relatif quand même, je vous interromps. Parce que la loi, à quoi elle sert ? La loi, elle est générale, impersonnelle, et puis qu'est-ce qui se passe finalement ? Ce sont des faits qui sont beaucoup plus concrets. Et comment est-ce qu'on va appliquer une loi à une situation concrète ? Et bien ça, la loi, elle ne peut pas le prévoir elle-même, et c'est toute la question de l'interprétation.
Oui, ça vous fait...
C'est toujours la question, faut-il préférer de grands principes ou des textes extrêmement précis ? C'est cet écueil-là, on a toujours une espèce d'esprit général avec lequel tout le monde est d'accord en général par principe, mais dès qu'il s'agit de le concrétiser, alors là, évidemment, on se rend compte que les choses vont beaucoup moins bien, et c'est la raison pour laquelle on aime beaucoup faire des lois. Aujourd'hui, on fait énormément de lois. Mais est-ce que la loi peut tout prévoir aussi, alors même qu'elle est plus précise ?
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la meilleure façon de créer des désaccords, c'est de n'avoir que des principes. Si par exemple, j'abonde dans ce que vous dites, mais si on pose un principe de solidarité, personne ne sera contre. Simplement, quand il s'agira de dire en pratique ce qu'elle signifie, savoir combien contribuera, selon quel principe, dans quelle proportion, on voit tout de suite que les désaccords se font et qu'il est nécessaire de fixer des règles un peu plus précises qu'un simple principe de solidarité. Alors après, vous dites, oui, très bien, mais moi, c'est moi qui vous pose la question. Après tout, on pourrait se dire, est-ce que ce n'est pas possible, finalement, de tout prévoir ? Ça, c'est peut-être l'autre solution, ce qui éviterait les querelles d'interprétation. Si on a tout prévu, il n'y a plus de discussion.
Eh bien, pourquoi pas, mais moi, je vais vous présenter un très bon contre-exemple. On a un droit de la responsabilité civile qui existe depuis 200 ans. Et encore aujourd'hui, on a des nouveaux cas qui apparaissent, qui demandent une vraie interprétation et un vrai travail de recherche pour savoir si effectivement ce cas-là correspond à ce qu'on avait au début. Et donc on voit même, au bout de 200 ans, on n'arrive pas à tout prévoir. Alors est-ce qu'on peut tout prévoir ? La réponse est certainement non.
Oui, moi j'irais même plus loin que ça, à vrai dire. C'est-à-dire que quand bien même on pense qu'on peut tout prévoir, force est de constater que le droit procède toujours par deux temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours un législateur et un interprète. Et ce n'est pas parce que l'auteur du texte a tout prévu que l'interprète ne veut pas aller dans un sens autre ou différent. Il y en aurait assez fameux en droit administratif, l'arrêt d'Ablamotte, dans lequel une requérante essayait d'agir contre l'État. Or, en l'espèce, le texte lui dit « aucun recours n'est possible ». Le texte a l'air comme ça fondamentalement clair, et pourtant le Conseil d'État a dit « aucun recours n'est possible, sauf le recours pour excès de pouvoir ». Alors, est-ce qu'on peut tout prévoir ? J'avoue que j'y crois assez peu.
Alors, moi j'ai tendance à penser qu'on peut tout prévoir, et certains individus sont dans une situation où les contraintes qui pèsent sur eux, dans un univers déterminé, sont des contraintes où pratiquement tout a été prévu. Si on prend le cas d'un salarié travailleur posté sur une chaîne, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a encore, une fois qu'il est à son poste de travail, le processus qu'il doit suivre ne comporte quasiment aucune imprévision, aucune incertitude. Simplement, on se rend compte que, alors, peut-être que c'est une nécessité industrielle, par ailleurs, son temps de travail est limité, fort heureusement pour lui, mais enfin, on voit qu'il y a des processus dans lesquels tout est prévu. Simplement, je pense qu'au-delà de l'impossibilité matérielle, il y a aussi l'impossibilité théorique qui est qu'on ne doit pas tout prévoir. La contrepartie, la raison d'être de cette marge de manœuvre volontaire, c'est le principe de liberté, tout simplement. Alors, ça, c'est des grandes questions. Mais il y a aussi des petites questions, enfin, des questions plus techniques, mais qui sont tout aussi importantes en pratique, je dirais, sont des questions d'étudiants. Je vous l'ai déjà dit, on vous l'a déjà dit, nous utilisons un certain nombre d'expressions du langage courant, mais en réalité, des expressions qui sont peu utilisées dans le langage courant, mais qui sont beaucoup utilisées par les juristes et qui nous déconcertent parfois et qui nous prennent à revers et qui nous surprennent et qu'on ne maîtrise plus très bien. Alors, on s'est amusé à faire un petit jeu. On va prendre chacun au hasard un texte et en le lisant, alors chacun de ces textes comporte une petite locution propre au langage courant, mais en fait utilisée par les juristes, et on va s'efforcer de vous la restituer le plus simplement possible. Qui commence ?
Moi, j'y vais.
Bon, allez-y, Liane. Au hasard. Hein.
Au hasard.
Vous allez voir, on risque de se planter.
Voilà. D'ailleurs, j'ai pas pris la plus simple. Hein. Bon. Donc, je vais vous lire rapidement le texte et ensuite, je vais vous expliquer ce que je comprends et on va en discuter avec mes collègues. Donc, moi, j'ai un texte du Code civil qui concerne l'adoption simple, qui dispose que l'adoption conserve tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le terme nonobstant, ça veut dire même si. Si on est bien d'accord.
Il y a quelque chose qui aidera peut-être les étudiants, parce qu'effectivement, passer de nonobstant à même si, ou en dépit d'eux, n'est pas toujours très clair. Mais si certains se rappellent leur cours de latin éventuel au collège ou au lycée, ils se souviendront que obstare veut dire faire obstacle. Et donc, nonobstant signifie ceci ne faisant pas obstacle. Ah oui. Autrement dit, si on relit d'une autre façon le texte, on peut le lire ainsi. L'établissement ultérieur d'un lien de filiation ne fait pas obstacle à ce que l'adoption conserve tous ses effets. L'adoption ultérieure.
Et j'ajoute, petit conseil de méthode, que retient toujours mieux quelque chose en ayant compris ce que ça signifie qu'en retenant par cœur. Donc si je me dis nonobstant c'est même si, il y a de bonnes chances que je le retienne, mais si je dis nonobstant c'est je prends la proposition qui suit, je dis elle ne fait pas obstacle à celle qui précède, nonobstant ne fait pas obstacle. Ça, a priori,
ça marche
pas mal. Quoi.
Merci aux latinistes.
Voilà. Allez, vous voyez, ça sert le latin. Montre-moi les lunettes. Bon, ça va, j'en ai un facile, moi. Par dérogation à l'article 26, la déclaration, alors je ne sais pas ce que c'est, ça va être une déclaration, la déclaration est reçue par le président du tribunal de première instance. On parle dérogation à l'article 26, c'est-à-dire qu'on a un article 26 qui prévoit que la déclaration doit être faite quelque part. J'imagine, là, ça, si on me dit c'est le greffier en chef du tribunal d'instance, bon, ça a l'air très intéressant. Alors, donc la déclaration doit être en principe chez lui, mais par dérogation à ce qui est prévu, eh bien, la déclaration se fera chez quelqu'un d'a priori un petit peu plus haut dans la hiérarchie, qui est le président du tribunal de première instance. À vous, Quentin.
À défaut de titre et de possession d'État, la recherche de maternité est admise. Donc c'est un article du Code civil qui parle d'une action en justice pour obtenir un lien de filiation maternelle et qui signifie donc que la recherche de maternité, cette action, est possible à condition qu'il n'y ait pas, donc faute de, à défaut de titre ou de possession d'hectare.
Juste pour que ce soit à peu près clair, le titre, on va dire que c'est l'acte de naissance, et la possession d'État, c'est le fait de se comporter comme. Donc on peut dire qu'il y a une possession d'État entre la mère, oui, ça c'est des questions de terminologie juridique, il y a une possession d'État entre la mère et le fils si la femme s'occupe de l'enfant de la même manière que s'en occuperait une mère. C'est le fait de se comporter comme qui donne la possession de l'État. Donc si on a le titre, plus la, enfin, à défaut d'avoir l'un et l'autre...
Si je peux un tout petit peu préciser sur ce point, il y a un mot qui est très important, ouais. Qui est le « et », à défaut de titre et de possession. C'est-à-dire qu'il ne faut qu'on ait ni l'un ni l'autre. Et voilà, il faut juste faire attention quand on voit les « et », c'est bien des conditions qui sont cumulatives et non pas alternatives. C'est un second point, qui nous permet d'aller un peu plus loin sur ce texte.
Donc, il y a non seulement la locution à défaut, mais il y a aussi le fait de... Il y a deux enseignements dans ce texte. Il y a la locution à maîtriser, le à défaut. Il y a tout simplement la maîtrise de la syntaxe française et qu'est-ce que ça signifie. Et puis la terminologie juridique, ça veut dire quoi? Titre, possession d'État. Ça, il suffit d'ouvrir un petit ouvrage de lexique, soit un lexique juridique, soit un ouvrage de terminologie juridique. Je ne fais pas de publicité, pour avoir les définitions et savoir au moins de quoi on parle. On continue, à vous, Liane.
Allez. Donc, chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre, toutefois, un jugement peut le leur interdire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, toutefois? C'est cependant, donc on conserve le nom, cependant, il est possible de ne pas le conserver s'il y a telle ou telle raison qu'il le demande. Donc ça, le terme que j'avais à travailler, c'était le terme « toutefois ».
Oui. Alors, on voit que c'est assez proche de « par dérogation », mais « par dérogation », c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça signifie quand même plutôt une exception, ouais. Alors que là, c'est plutôt une alternative.
Une précision, c'est moins fort. Voilà,
c'est moins fort, oui. Mm-hmm. Bon, à moi, ouais, ça va. Alors, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat, ça, j'en ai déjà parlé, et ils peuvent s'en prévaloir, notamment pour apporter la preuve d'un fait. Notamment pour apporter la preuve d'un fait. Donc, par exemple, pour apporter la preuve d'un fait. Mais il peut y avoir d'autres utilités possibles pour les tiers. Enfin, les tiers ont d'autres possibilités de se prévaloir du contrat, mais c'est à celle-là que le législateur a pensé et peut-être à laquelle on pense en premier. À vous, Quentin. Enfin, les dernières qui restent, je crois que ce n'est pas les plus fastoches.
Alors, l'article 16.4 du Code civil dispose que, sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne. Autrement dit, en dehors des cas médicaux, finalement, en dehors d'eux, à l'exception d'eux, finalement, on ne peut pas transformer des humains en organismes génétiquement modifiés. C'est quand même l'idée globale de ce texte. Donc, en dehors de certains cas, pas de modification génétique.
Sans préjudice, en dehors d'eux. À vous, Liane. Je suis sûr que vous allez avoir sous réserve.
Non, j'ai mieux. Mention des décisions de changement de prénom est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si besoin est, donc s'il y a des enfants et il y a un conjoint, alors on va aussi porter la mention de changement sur le registre d'état civil. Donc voilà, le cas échéant, c'est en fait si jamais le cas se présente, si on a besoin de le régler.
Est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire éventuellement. C'est-à-dire, on ne dit pas éventuellement, vous rajoutez le nom. On dit, si vous avez un conjoint et des enfants, vous devez ajouter, porter mention de leur nom.
Mais voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a conjoint et.
Voilà, si le cas se présente, c'est obligatoire, ce n'est pas à la demande. Bon, alors il en reste un. Et lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis. Bon. De respecter la suite est enfin la suite est intéressante mais elle n'est pas intéressante pour ce qu'on a envie d'expliquer aujourd'hui, sous réserve de respecter un délai de préavis. On dit évidemment à la condition de respecter un délai de préavis. Ne confondez pas sous réserve et sans préjudice de. Les deux expressions ont un sens différent. Sous réserve de, c'est à condition de.
Bon. Ça va, on s'en est bien sorti.
Bon, ouais, on avait nos antisèches, mais on ne les a pas regardés. Voilà, donc c'est pas mal. Et la télé, tout est perdu. Eh bien, ah oui, alors, c'est pas fini. On vous a parlé des arguments. A contrario, a fortiori à Paris, on vous a déjà dit que c'était des petits outils techniques, mais il faut quand même savoir les reconnaître. Voilà, de la même manière qu'un menuisier fait la différence entre un marteau et un tournevis, vous êtes prié de faire la différence entre a contrario à Paris, a fortiori. Petit jeu, les vélos sont autorisés dans le parc. A contrario, Yann.
Alors, à contrario des vélos autorisés dans le parc, les véhicules terrestres à moteur, les voitures ne sont pas autorisées dans le parc.
Ok. Voilà. A fortiori.
A fortiori, ce qu'on veut, un char, un camion. A fortiori, par rapport aux voitures.
Non,
a fortiori, par rapport à la règle de base.
Voilà, ils sont à l'air prêts.
Là, terrible.
Tu as interprété mon interprétation.
C'est pas faux, parce qu'évidemment, c'est a fortiori par rapport à ce qu'a dit Yann. La règle, c'est les vélos sont autorisés dans le parc.
Donc, a fortiori, on peut imaginer que les piétons le seront, si on imagine mal un vélo venir tout seul, notamment quand même dans un parc. Hein. Et une poussette également.
Ah, la poussette même il fut un temps où les poussettes étaient interdites dans le bus. Bon, alors finalement, la raison est revenue au gestionnaire de ce service public très utile. Et il y a un espace maintenant prévu pour les poussettes. Mais ce qui pose la question du fameux « à Paris ». Est-ce que, après tout, les vélos sont autorisés dans le parc, mais quid des trottinettes ?
C'est toujours assez compliqué, l'argument du même, ouais. Du similaire, c'est compliqué, parce qu'évidemment, on se dit un vélo autorisé, bon, ça veut dire qu'un tricycle, ou un monocycle aussi, même si, là, on peut dire qu'on joue sur les mots, mais c'est peut-être aussi nous, les rois de la chicane, comme vous le disiez tout à l'heure.
Les
suppos, c'est encore pire. Mais bon... il y a peut-être certains cas évidents. Ceci dit, et là on peut faire appel au philosophe du droit Hart, philosophe du droit britannique, qui disait que dans les textes, certes, il y a toujours un noyau, disons, clair de signification, mais qu'il y a toujours une zone de pénombre. Et qu'effectivement, si le monocycle semble autorisé ici à Paris, c'est-à-dire à raison similaire, quid du vélo électrique, par exemple, ou de la trottinette électrique.
Il y a une vraie question, la question du vélo électrique, parce qu'il va quand même beaucoup plus vite que le vélo pas électrique.
Et qui est très utilisé aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une tonne de trottinettes. Bon.
Moi, c'est mon vélo, n'est pas électrique. Ce sont des questions, je dirais, relativement prosaïques, qui sont très pratiques, mais qui posent derrière une question plus essentielle, qui est cette fameuse pénombre, et cette pénombre des textes, et la nécessité de les rendre plus clairs, donc la nécessité de l'interprétation. Et je crois que le temps est venu de passer plus de temps sur une notion plus problématique que le vélo électrique ou pas électrique, même si ça permettait de bien se mettre en tête les outils de la technique juridique. Venons-en à un exemple, seconde partie, le droit par l'exemple. Le droit par l'exemple, eh bien, nous allons, à travers un exemple, essayer de vous montrer toute la richesse et toutes les difficultés et les incertitudes également du travail d'interprétation. Et justement, pour illustrer ces difficultés, nous avons pris une notion, qui est une notion juridique, qui est le travail. Et sur cette notion juridique de travail, nous allons faire deux choses. D'abord, voir comment le juriste travaille la notion, et ensuite, voir quelles analogies le juriste s'autorise une fois qu'il a éclairci la notion de travail. Alors, commençons par la notion même. On a un exemple, là. La parole.
Suis impatiente de parler de
mais
la
oui,
règle,
ben ça, c'est très
qui
bien.
M'intéresse
donc,
énormément.
On ne va pas partir du travail en général, etc. On va partir d'un exemple qui a été bien, qui a fait parler de lui. Et je vous donne la parole, Yann. Excusez-moi.
C'est pas tant que je suis fan de télé-réalité, parce que finalement, c'est ce dont on va parler, mais c'est que l'arrêt est quand même très intéressant. Et donc, l'arrêt porte sur une émission que vous connaissez peut-être, je sais pas si elle a encore cours aujourd'hui, qui s'appelle L'île de la tentation, dans lequel des couples vont pendant une semaine ou quelques jours sur une île pour tester leur fidélité et leur amour. Et donc, avant...
C'est le top, hein, quand même, c'est le chef-d'œuvre de la télé-réalité, hein, c'est-à-dire qu'il y a un couple, et puis l'homme ou la femme passent quelques jours sur une île, et on les met en présence d'autres que de leur conjoint pour voir s'ils vont résister à la tentation. Oh, donc c'est ça le sujet.
Mais comme quoi le droit, c'est intéressant. on dirait pas. Et donc, pour aller sur la scène des tournages, ils vont signer ce qu'on appelle un règlement, en échange duquel ils auront une petite rémunération, environ 1 500 € à l'époque, en 2009. Hein, ça a bien changé aujourd'hui pour le tournage. Et donc, c'est une sorte de contrat. Et donc, on va leur demander d'être présents sur le tournage, de respecter le règlement, mais surtout d'être eux-mêmes, c'est-à-dire ils ne doivent pas jouer, ils doivent juste être eux-mêmes, et c'est en étant eux-mêmes qu'on va avoir tout l'équipe Rocco qui font l'essence de ce qu'on appelle attirer la réalité. Et c'est donc ces acteurs, je ne sais même pas comment les appeler, mais on va dire que ce sont des acteurs, je ne sais pas un autre terme.
Oui, c'est candidats, participants ou joueurs, voilà. On va dire, de manière neutre.
N'étaient pas satisfaits de ce règlement qui était le contrat. Et pourquoi ? Parce que finalement, un contrat de travail, c'est quelque chose de très particulier auquel est associé des règles protectrices, le chômage, la sécurité sociale, etc., etc., notamment aussi des règles en cas de rupture, ce que vous êtes entendu parler sur la règle de licenciement. Et finalement, ces personnes ne bénéficiaient pas de la protection du contrat de travail. Ils vont donc se porter devant le juge pour demander ce qu'on appelle la requalification du contrat en un contrat de travail, ce que le juge va faire et pourquoi.
D'où la question. Est-ce que passer 10 jours sur une plage au soleil à tester ses sentiments, en buvant diverses boissons, alcoolisées ou non, peu importe, on n'est pas des perles à morale, mais est-ce que ce simple fait de ne rien faire devant une caméra de télévision peut constituer du travail? Et alors, je sais que vous allez m'interrompre, on peut quand même s'interroger. Dans le contrat de travail, ce qu'on offre, c'est ce qu'on appelle sa force de travail. Sa force de travail, ça peut être la force physique, ça peut être la force intellectuelle, et généralement, c'est les deux en même temps. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs quand on parle, puisqu'on réfléchit à ce qu'on dit, et en même temps, on fait travailler ses maxillaires. Bon, là, quand on ne fait rien, et j'ajoute même qu'on leur demande de ne rien faire, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de jouer, on leur demande d'être eux-mêmes. Eh bien, est-ce qu'on peut pas dire, c'est ce qu'ont plaidé les producteurs, évidemment, mais je me fais l'avocat de... Là, je parle pour eux, mais peu importe, pour qu'on comprenne la notion, de dire, voilà, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une force de travail? Est-ce qu'il y a du travail au sens juridique du terme? Et vous allez me dire que oui. Ah,
évidemment, hein. Évidemment, pourquoi? Parce que, déjà, on peut opposer deux arguments à ce que vous dites. On est rémunéré uniquement pour être ce qu'ils sont, c'est ce que vous avez dit.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose d'un mannequin, par exemple, qui défile? On va dire, là, il y a un effort physique, d'accord. Mais on dit, ils ne font rien d'autre.
Il y a une façon de marcher.
Certes, mais ne leur demande-t-on pas, et c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'arrêt, de répéter certaines scènes, de rejouer certaines choses? Et en ce cas-là, ne sont-ils pas, en ce sens, des acteurs? On peut se poser la question.
Oui, alors, au-delà de la question, qu'est-ce qui fait dire? Bon, parce qu'à la fin de l'histoire, on a considéré qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail. Donc, pourquoi?
Et en vérité, la question que se pose la Cour n'est pas est-ce du travail de façon abstraite? C'est-à-dire qu'elle n'apprécie pas la qualité ou non, en vérité, du travail. Elle apprécie trois critères. Le premier, trois critères traditionnels pour définir le contrat de travail, c'est l'existence d'une prestation. Le deuxième, l'existence d'une rémunération. Et le troisième, un lien de subordination qui permet de caractériser l'échange entre la dite prestation et la dite rémunération. Or, la Cour a estimé dans cet arrêt qu'il y avait bien une prestation, une rémunération et un lien de subordination. C'est la raison pour laquelle elle a requalifié ce règlement, ce papier signé entre les parties, en contrat de travail.
Il y a un travail à partir du moment où il y a une prestation, une rémunération et une subordination dans l'exécution du travail. A priori, vous voyez que le travail notionnel autour de ce qu'est le travail est fait par la jurisprudence, est fait par les juges, et les juges arrivent à clarifier et à rendre opératoire la notion de travail en utilisant un critère à trois branches: prestation, rémunération, subordination. Sauf que tout ça paraît très clair, mais moi j'ai l'exemple d'un pauvre petit pasteur, donc de l'Église réformée, qui arrivé à la fin de ses jours, se rend compte qu'il a été payé moins que le SMIC toute sa vie. Je rappelle que les pasteurs ont le droit de se marier, ont quand même une charge de famille, et dit « moi j'aimerais quand même avoir au moins de mon association cultuelle le minimum qu'offre le droit du travail, notamment le salaire minimum, qui est le SMIC. » Et on lui dit, « mon bon monsieur, vous avez passé votre vie a déclaré et a préparé le règne de Dieu sur terre. Nous en sommes très grés, mais vous n'avez jamais conclu de contrat de travail. Donc, débrouillez-vous. Je ne comprends pas parce que...
C'est là que le raisonnement de la Cour est assez curieux, disons, ou à défaut, voire même gênant, mais...
Je rappelle juste quand même, parce que je fais pas ça. Mon interrogation, c'est... Notre pasteur fait une prestation, hein, qui est de ne serait-ce que de tenir le culte. Il le fait pas n'importe comment, donc il y a une certaine exigence, et quand il célèbre le culte, il n'est pas là pour faire un concert de rock. Et troisièmement, il a une rémunération, hein, puisqu'il est quand même rémunéré. Donc les trois éléments, subordination,
c'est ça
prestation...
qui est très étonnant, précisément, c'est qu'il y a ces trois éléments caractéristiques de la définition jurisprudentielle classique du contrat de travail, et pourtant la Cour refuse de requalifier le dit contrat, ou en tout cas l'acte, la relation juridique, au nom même de ce qu'ont fait les parties. C'est-à-dire que, contrairement à la décision Île de la Tentation, où nous disait « certes, les parties ont prétendu signer un règlement, mais en vérité, au vu des trois critères, il s'agit d'un contrat de travail », dans cet arrêt relatif au pasteur, on nous dit au contraire, bon, les parties n'ont pas dit qu'il s'agissait d'un contrat de travail, quand bien même il y aura ces trois éléments, même, c'est presque ce qu'on nous dit, il n'y a donc pas de contrat de travail. Ce qui est assez déroutant, à vrai dire.
Et du coup, justement, ce qui se passe là, quand on compare ces deux arrêts, c'est qu'on touche un point extrêmement important de ce que c'est que l'interprétation. Parce que l'interprétation, elle ne se fait pas de manière abstraite, elle se fait dans un contexte, dans une société donnée. Et on voit bien que, donc, quand c'est l'arrêt qui a été rendu sur le pasteur, qui date de 86, montre bien que finalement, la question de la religion corrélée au droit du travail, ce n'est pas un enjeu de société à ce moment-là. Par contre, la télé-réalité qui commence aujourd'hui à devenir un vrai enjeu de... j'ai osé le dire, de la culture, mais je sais que j'allais faire reprendre. d'un type de culture.
Voilà, le paysage audiovisuel.
En tout cas, qui est très important pour un grand nombre de personnes qui travaillent dans ce milieu-là. Et bien là, on voit que tout d'un coup, le droit rentre dedans et cherche à protéger ses candidats et ses acteurs. Donc voilà, il y a vraiment, en comparant ça, on peut vraiment se rendre compte que l'interprétation, c'est une science finalement du concret, autant que de l'abstrait.
Oui. Il y a la notion et il y a le contexte. Et de ce point de vue, on peut rendre honneur à François Génie et la libre recherche scientifique qui a mis en évidence, une chose qui a peut-être été déjà dite avant, mais qui a mis en évidence le fait que l'interprète est nécessairement interprète au cœur d'une société, au cœur d'une culture, et qu'il ne peut pas rester indifférent aux évolutions de la société qui l'entoure. Ces évolutions ne seraient-elles pas forcément les plus riches culturellement? Ce n'est pas le sujet, c'est une évolution qui est là, et le juge est là et doit rendre ses décisions ici et maintenant. Alors, autre question sur le travail, c'est celle de l'analogie. Et c'est une question qui a souvent été posée et qui se pose encore aujourd'hui à propos, par exemple, de tous ces livreurs qui parcourent Paris sur un vélo avec un gros sac tout carré dans le dos, qui peuvent avoir un statut d'indépendant et dont on peut se dire que même s'ils sont indépendants, il y aurait quelque justice à les considérer comme des travailleurs salariés et à les faire bénéficier du Code du travail. Alors, la question s'est posée de manière intéressante et elle pose un vrai problème d'analogie. Il y a quelques années, la configuration est la même, le contexte législatif n'était pas tout à fait le même, à propos de livreurs n'ayant qu'un seul client, en tout cas n'ayant qu'un seul donneur d'ordre, leur fournissant leur activité de transporteur. Et il existait un texte dans le Code du travail prévoyant que ces individus, ces transporteurs, n'ayant qu'un seul donneur d'ordre, pourraient bénéficier des règles du Code du travail. Et la question s'est posée de savoir si ce texte, qui donc étendait les règles du Code du travail à des individus sur la situation desquels on pouvait s'interroger, si ce texte devait s'appliquer à des transporteurs ayant un statut d'indépendant et par exemple une carte de commerçant. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation a décidé dans cette configuration d'étendre le régime et de l'appliquer à ces individus qui, ayant un seul donneur d'ordre, avaient malgré tout juridiquement la qualité d'indépendant. Alors, là, on voit bien que c'est une analogie. On applique les règles du Code du travail à quelqu'un dont on sait qu'il n'est pas travailleur salarié. Et ça, à votre avis, pourquoi ?
En fait, Liane. La question qui se pose ici, si je peux la formuler en ce terme, c'est que finalement, pourquoi le législateur a entendu passer un tel article, une telle législation. Et la question qui se pose, c'est une deuxième portrait un peu de la notion d'interprétation, qui est la recherche de la volonté, de l'intention du législateur, c'est-à-dire on va interpréter un texte en essayant de rechercher pourquoi il a été adopté, pourquoi celui qui l'a adopté a décidé de l'adopter. Et comment on fait ça? Alors, quand on fait une thèse, on le fait beaucoup, on va lire tout ce qui est les travaux préparatoires, donc tous les débats, les amendements, les projets, etc., les propositions de loi qui sont à l'origine de cette loi-là.
On n'est pas esclave des travaux préparatoires.
Évidemment. Et en fait, finalement, la loi, c'est un peu comme un roman. Un roman, quelqu'un va l'écrire et ensuite va le délivrer au public. Et finalement, le lecteur va s'approprier et interpréter le roman. C'est la même chose de la loi.
Oui, peut-être. Je pense que d'ailleurs, sur cette affaire des transporteurs, je ne sais pas s'il y a une recherche vraiment d'intention au regard des travaux préparatoires. Je pense que le texte était assez ancien. Mais il y a cette idée... C'est-à-dire, pour cela, une extension est prévue. Donc, on sait très bien qu'a priori, le texte peut s'appliquer à des individus qui ne remplissent pas les trois critères pour qu'il y ait contrat de travail, prestation, rémunération, subordination. Donc, peu importe qu'il soit indépendant, puisque ça n'est pas le sujet, on veut précisément étendre le code du travail à des individus dont on ne sait pas s'ils sont salariés. Bien, s'il est établi qu'ils ne le sont pas, on applique quand même le texte, puisque telle est la finalité. Et je pense que cette recherche de finalité est assez largement détachée des travaux préparatoires. Bon, j'ajoute que de toute façon, la recherche d'intention, il y a quand même des hypothèses où elle est parfaitement divinatoire, voire impossible, non?
Oui, surtout dans certaines matières, bon, que vous ne verrez pas en première année, mais si on regarde l'histoire du droit administratif ou l'histoire moins récente, mais du droit international privé, il se trouve que la plupart des normes ont été élaborées par le juge à défaut de normes, ou en tout cas à défaut de normes précises, élaborées par le législateur. Donc l'intention du juge, bien souvent, se transforme en intention de la loi appliquée à un contexte donné. Oui, si on peut le dire ainsi.
Oui, enfin l'intention du juge. Oui. Et ce qui nous conduit directement à notre troisième séquence, Allons plus loin, où nous allons nous interroger sur un éventuel gouvernement des juges, question que pose inévitablement l'étude de l'interprétation. Allons plus loin. Allons plus loin, le gouvernement des juges. Mais oui, si les juges n'ont pas besoin d'aller rechercher l'intention du législateur parce que ce sont eux-mêmes qui fixent les règles, bien, ne peut-on craindre, question qui revient régulièrement dans le débat public, ne peut-on craindre ce qu'on appelle un gouvernement des juges? C'est typiquement une question du débat public qui est corrélée au sujet technique dont nous parlons aujourd'hui, qui est celui de l'interprétation. On peut, ce sujet, le gouvernement des juges, le traiter à travers deux questions. Au fond, est-ce que les juges font ce qu'ils veulent? Et seconde question, est-ce que les juges font la loi? Première question, les juges font-ils ce qu'ils veulent? Alors, nous avons pris un exemple dont nous avons pas mal parlé déjà, dont il a été question dans le débat public, et qui a donné lieu à deux arrêts, un en 2015, un en 2018, qui concernent deux dirigeants d'un parti qui ne fait pas l'unanimité, mais qui a ses soutiens, qui est le Front National, et le livre révèle que deux dirigeants de ce parti politique ont une relation homosexuelle et donc une vie intime partagée. Et naturellement, ces deux dirigeants considèrent qu'il y a là une atteinte à leur vie privée. Procès, et l'auteur du livre, lui, oppose à cette atteinte, oppose le fait qu'il a tout simplement usé de la liberté d'expression et de la liberté de communiquer ses idées. L'affaire est portée devant les juges qui doivent donc arbitrer entre d'un côté le droit au respect de la vie privée de ces deux dirigeants politiques et de l'autre côté la liberté d'expression qui comprend la liberté de communiquer ses opinions qu'invoque l'auteur du livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va observer que ce conflit va être arbitré de deux manières différentes, par les juges du fond, par la Cour de cassation, et je dois dire que l'interprétation qui a été condamnée ne paraît pas nécessairement la plus mauvaise des deux. Comment raisonnent les juges d'appel? Les juges d'appel, c'est un peu long, mais il faut juste qu'on retrace le parcours. Les juges d'appel disent, mais cette révélation d'un fait de vie privée est justifiée par le fait que ce fait de vie privée expliquerait un événement de la vie publique qui est que le Parti Front National ne s'est pas engagé dans le combat de la manif pour tous, ne s'est pas engagé contre le mariage homosexuel. Mais la Cour d'appel dit, ça c'est une explication qui est sans doute peut-être un peu vaseuse, mais la Cour d'appel dit quelque chose de plus subtil, elle dit, si il suffit de dire, je vais expliquer un événement public par la vie privée, pour justifier une révélation, un dévoilement de la vie privée, alors ça deviendra très très facile de faire sauter tous les verrous qui sont censés entourer la vie privée. Et la Cour de cassation, elle a un raisonnement différent, qui est de dire, il s'agit d'expliquer un fait public, la position du Front National à propos du débat sur le mariage pour tous, par un fait privé. Il est donc nécessaire, si on veut communiquer cette expression, de transmettre cet élément de vie privée, et peut-être est-ce désagréable pour les intéressés, mais au fond, la vie privée des personnes publiques, ça n'est pas très grave. Je dois dire que ce type de décision, où les juges sont les arbitres de deux droits fondamentaux, sont quand même d'une issue très incertaine, et pour le coup laissent perplexe l'interprète en recherche, non pas de certitude, mais au moins de repères. Donc, moi, je ne suis pas très emballé pour dire les choses clairement.
Ça, c'est certain, mais cet aléa, en vérité, s'explique assez simplement. C'est-à-dire qu'il y a une double difficulté dans ce genre de situation. On a deux normes qui sont en conflit, deux principes, sachant que des principes ne s'appliquent pas sur une logique du tout ou rien. Des principes, ça doit se concrétiser. Donc, comme on l'a dit déjà au début de l'émission, des principes, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Et on a deux principes qui, d'après le législateur, sont au même niveau normatif, c'est-à-dire sont considérés comme ayant abstraitement la même importance. Ce qui signifie que l'intention du législateur ne peut en aucun cas aider le magistrat à trancher le litige, puisque, en tout cas, l'intention officiellement affichée nous laisse penser que le droit à la vie privée est de la même valeur que le droit à la liberté d'expression et à l'information du public. Or, de cette difficulté-là abstraite, de cette absence d'intention du législateur, qui est peut-être d'ailleurs tout à fait volontaire en vérité, de mettre ces deux normes au même niveau, découle une difficulté concrète, mais qui est une obligation pour le juge en vérité, de concrétiser, c'est-à-dire dans le litige en cause, ces deux normes et de les mettre en balance afin que l'un des droits prime sur l'autre. Alors, évidemment, on peut dire de là, à propos du gouvernement des juges, que c'est gênant, puisque le juge se fait législateur en le sens qu'il propose une nouvelle hiérarchie des normes, impensée par le législateur. Mais en même temps, on peut se rassurer en se disant que cette hiérarchie n'est concrète que dans ce cas-là, précisément. Oui, mais c'est quand même peut-être pas si gênant, en vérité, puisqu'il doit le faire.
Oui, mais c'est quand même très, très incertain.
C'est pas si incertain. Enfin, je me fais l'avocat du diable de nouveau. Mais
En fait, l'avocat de nos dirigeants.
Non, c'est pas ça. Ce que j'aimerais juste signaler, c'est que finalement, on a certes ce contrôle de proportionnalité qui effectue un peu de manière, semblerait aléatoire, mais finalement, si on regarde toutes les décisions qui ont été rendues, on reste sur un processus décisionnel qui est assez constant. C'est-à-dire qu'on a souvent quand même les mêmes résultats, les mêmes libertés qui sont équilibrées et des résultats qui sont... Enfin, voilà, on peut à peu près les prévoir. Et puis, moi, je dois dire quelque chose en matière de numérique. On en avait discuté, mais c'est vrai que quand on voit les décisions qui mettent en balance la vie privée, à peu près quoi que ce soit d'autre, finalement, souvent la vie privée est perdante. Et donc, finalement, on a une sorte de hiérarchie des normes, des principes, avec la vie privée en bas, qui est constante. Donc, après, est-ce que c'est bien ou pas bien, là, chacun en jugera, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit complètement contraire à la sécurité juridique.
Oui, ce qui veut quand même dire, morale de l'histoire, que quand on raisonne, quand le législateur offre au juge des principes, et donc offre au juge, finalement, de très grande marge de manœuvre, la seule manière de revenir à des interprétations qui offrent de la sécurité juridique, c'est de discipliner ces principes et, au rebours de ce qui a été voulu à l'origine, de mettre une hiérarchie implicite entre les différents principes qui figurent sur la même déclaration. Et après tout, que la vie privée cède le pas devant la liberté d'expression, qui elle-même cède le pas devant le respect du droit à la vie, ce sont des hiérarchies qui peuvent paraître acceptables.
D'ailleurs, la Cour de cassation, là, dans l'espèce qu'on a traité, elle encadre quand même assez bien son interprétation. Donc, voilà.
Ce qui veut dire concrètement quand même pour l'étudiant que dans ces matières, on va dire à principe, le travail de l'interprète est en premier lieu un travail d'analyse des décisions de justice. Et donc, on voit que tout à l'heure, lorsqu'on discutait et qu'on s'amusait avec nos locutions, on était vraiment sur un travail de commentaire des textes et de règles issues de la loi, ou l'autorité du pouvoir exécutif, peu importe, mais des règles. Lorsqu'on passe sur des principes, on voit que le travail d'interprétation qui est possible, qui permet de mettre des régularités, des constances dans un amas de décisions qui paraissent perplexes, que tout ceci suppose une analyse des décisions de justice, de la jurisprudence. C'est bientôt au menu, je vous rassure. Dernière question avant de nous quitter. Les juges font-ils la loi? Alors, lisez-nous ce que nous a légué le premier président honoraire de la Cour de cassation.
Donc, je vous lis un extrait. Donc, l'office de la Cour de cassation est passé d'un pouvoir normatif individuel et particulier à un pouvoir normatif plus collectif et général. Et là, finalement, vous voyez bien que la jurisprudence qui est censée être plus concrète et déterminée dans un sens beaucoup plus général. Et ça, c'est à la base la loi.
Le pouvoir normatif plus collectif et général, ça veut dire le juge fait la loi. Alors, Monsieur le Premier Président, nous pouvons formuler quelques réserves à cet égard. La Cour de cassation a un rôle tout à fait éminent qui est d'assurer l'unité de l'interprétation de la règle sur l'ensemble du territoire. Et il est heureux qu'elle se tienne à cette mission.
Ceci dit, il n'a pas tort descriptivement sur un point. C'est en ce qui concerne le contrôle de conventionnalité et de constitutionnalité. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le juge peut dire au législateur élu, non, la loi n'est pas conforme à nos principes plus généraux, quand même. Ça, c'est peut-être la seule chose vraie de ce qu'il peut dire, en tout cas.
On verra, on va avoir une séance entière pour parler de cette question de la jurisprudence. Non, la difficulté, que le juge soit et qualité pour apprécier la conventionnalité d'un texte interne, d'une loi interne à un texte de portée supralégislative et pour le juge judiciaire essentiellement les textes de la Convention européenne et les textes internationaux, très bien. Simplement, il faut quand même veiller à ne pas instrumentaliser cette utilisation possible des textes internationaux. Et il y en a quand même là un exemple récent, on en a parlé la dernière fois, mais sous un autre angle également, qui sont les barèmes Macron. Là, pour le coup, on sait très bien ce que le législateur a voulu. Le législateur a voulu que, en cas de licenciement sans motif valable, il y ait une indemnité, mais que cette indemnité soit plafonnée, quelles que soient les circonstances, en considération de l'ancienneté du salarié. Bon, nous avons une cour d'appel, qui est la cour d'appel de Reims, qui, le 25 septembre 2019, donc il y a quelques mois, nous dit « Ah oui, ces barèmes sont sans doute conformes à la convention de l'OIT, mais enfin, quand même, il faudra examiner des hypothèses dans lesquelles l'application de ces barèmes serait disproportionnée. » Ce que nous dit la Cour d'appel, c'est qu'on dit « si démonstration est faite que le préjudice du salarié est supérieur au plafond fixé par le barème, on pourra écarter le barème. » Ce qui veut dire que le juge, à travers cette décision, se donne le pouvoir de ne pas appliquer une règle qui, pour le coup, a été récemment décidée et fait l'objet d'une volonté politique absolument sans équivoque. Là, est-ce que, moi, je suis désolé, mais dans ce type d'affaires, je pense que le juge décide de faire la loi et de la faire même contre ce qu'a voulu le législateur.
Oui, il fait la loi. Ça, c'est certain qu'on a une décision contre allegem, au sens où elle ne dit pas ce que dit la loi. Ça, je le reconnais tout à fait. Mais il faut reconnaître que la Cour prend des pincettes quand même, si l'on veut, puisqu'elle ne dit pas les barèmes, je ne les respecterai pas. Elle dit les barèmes, abstraitement, sont tout à fait conformes à la convention de l'OIT, donc elle se conforme finalement à ce qu'a dit la Cour de cassation dans son avis. Mais concrètement, si jamais le requérant, c'est-à-dire le travailleur licencié, arrive à démontrer que les barèmes sont insuffisants au vu d'un préjudice général,
oui, d'accord.
Elle admettra cela. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais elle prend des pincettes, c'est ça que je veux dire.
On a déjà eu cette affaire-là, bon, le thème récurrent que la simplification du droit du licenciement permettra de relancer l'emploi, etc., on le connaît. Il a donné lieu à une première réforme où on a dispensé l'employeur de motiver son licenciement. Et les juges judiciaires ont considéré que cette réforme était contraire à une convention de l'OIT qui, de fait, exige que le licenciement soit motivé. Donc là, pour le coup, la décision des juges est parfaitement... elle est effectivement contre le législateur, mais son assise et son fondement international est indiscutable. Là, sur cette séquence-là, le texte international est beaucoup plus pauvre. Il nous dit qu'il faut une indemnité appropriée. Je ne vois pas comment, sur le fondement de cette notion d'indemnité appropriée, on peut aller jusqu'à dire que les barèmes, on pourra décider de ne pas les appliquer si c'est disproportionné, si. Là, je trouve qu'on rentre quand même dans une imprécision qui sert de prétexte à un refus d'appliquer la règle.
C'est vrai qu'en l'espèce, c'est pas faux. Mais est-ce qu'on peut dire que, de manière générale, il y a un gouvernement des juges? Bon, je pense qu'il ne faut pas tout simplifier et voir quand même.
Ce n'est que la Cour d'appel
de Rhin.
Ce n'est que la Cour d'appel de Rhin. C'est pas la cassation, quand même.
C'est vrai, oui, voilà. Donc, est-ce que. Je pense que peut-être que là, on assiste à une rébellion du juge. Bon, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais sur le système juridique français, j'oserais dire qu'il n'y a pas de gouvernement des juges. On est quand même dans un système d'équilibre des pouvoirs et des autorités.
Oui, d'autant que. Oui, justement. C'est vrai. L'expression de gouvernement des juges nous vient des États-Unis, où là, la justice est un pouvoir, chez nous, elle est une autorité, et de fait, elle reste malgré tout une autorité. Les exemples dans lesquels le juge prend de front, en tout cas très certainement de biais, l'œuvre législative restent relativement rares. C'est sur ce signe de prudence qui doit dominer l'interprétation des lois que nous mettons un terme à ces rendez-vous du droit et nous nous retrouvons tout bientôt. Grand merci à vous deux, Liane et Quentin.
Merci à vous.
À très bientôt.